porter la cour.
La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante.
Car ils pensent comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une qu'une république bien démocratique.
www.pourunequonstituante.fr.
Bonjour, Nathalie sur Radio Doc. Comme prévu, je reprends un thème tout à fait d'actualité, l'Europe. Le 9 juin, plus de 358 millions d'électeurs des 27 pays européens sont appelés à voter pour désigner 720 eurodéputés. C'est l'une des plus grandes élections au monde, peut-être après l'Inde. Le Parlement européen comptait 751 sièges en 2019, mais la mise en application du Brexit a conduit au départ de 73 eurodéputés britanniques. Nous allons voter pour les eurodéputés des différents pays. Ils se regroupent par affinité politique pour constituer des groupes parlementaires. On a déjà entendu parler de ces groupes parlementaires. Je pensais que c'était bien que je reparle de tout ça. Donc, le nombre de sièges dépend de la démographie du pays. Donc, pour nous, 80 sièges, j'ai même plus le nombre d'habitants. Malte en a 6, 96 pour l'Allemagne. Bon, je ne vais pas tous vous les énumérer, mais c'est comme ça que ça se passe. Le Parlement européen est la seule institution de l'Union européenne élue directement par les citoyens tous les 5 ans. Vive la démocratie ! En France, 81 députés, donc européens, européennes, seront donc élus au suffrage universel direct à un tour. 38 listes sont candidates en France. La législation européenne garantit la représentation proportionnelle. C'est depuis le traité de Maastricht, en 1992, que sont mentionnés, pour la première fois, les partis politiques européens. Alors, il n'y en a que 8, c'est déjà pas mal d'ailleurs, je trouve, mais enfin. Donc, je vais vous les nommer, je n'ai peut-être pas, parce qu'ils changent aussi de droite à gauche, parce que bien sûr, c'est surtout l'anglais qui véhicule le nom de ces groupes. Alors, groupe du Parti populaire européen, démocrate chrétien, donc c'est le fameux PPE. Groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates, la PSD. Le Renew Europe Group. Alors là, je ne sais pas, Poupa, sais-tu...
C'est Renaissance.
C'est
Renew, c'est Renaissance.
Oui, c'est la Renaissance, mais pas que, il y a...
Oui, c'est centre-droit libéral. Voilà, c'est...
Bon, mais ça fait...
En fait, avant, il s'appelait les centristes libéraux.
Centristes libéraux, voilà.
Voilà, à l'origine, et c'est depuis la dernière élection,
vote en 2019,
voilà, qui s'appelle Renew.
Qui s'appelle Renew Europe Group. Groupe des Verts, Alliance Libre Européenne, le groupe des conservateurs et réformistes européens, groupe Identité et
non,
démocratie.
Non mais précise, que réformiste et c'est quoi ?
Conservateur et réformiste.
Qui est un groupe majoritairement d'extrême droite quand même.
Voilà, et puis c'est un peu contradictoire d'ailleurs, conservateur et réformiste. Enfin non, bon, politiquement non, pas vraiment.
Voilà, c'est pas des révolutionnaires.
Voilà, non, c'est pas révolutionnaire.
Ils sont réformistes.
Non, c'est pas révolutionnaire. Groupe Identité et démocratie.
À nouveau un groupe d'extrême droite.
Encore.
Dont fait partie le Rassemblement National.
Exactement. Et puis le groupe de la gauche. Alors, GUE ou NGL. Là, bah écoutez, ça fait rien. Je vais vous donner de toute façon le site
le
où vous pouvez aller
où
avoir
y a LFI,
plus d'explications.
LFI, le Parti communiste.
Voilà. Donc, c'est 8 groupes donc, de familles politiques, donc de droite et de gauche, et de partis politiques européens. Donc, plusieurs critères permettent de définir un parti politique au niveau européen. Donc, sa personnalité juridique, sa représentativité à l'échelle nationale, mais aussi leur place lors des précédentes élections européennes. Ils doivent respecter les principes fondateurs, bien sûr, de l'Union européenne. Donc, pour plus de précision et pour mieux comprendre l'organisation des grands partis européens dans lesquels nos petits partis et nos grands partis s'y mettent, eh bien, vous pouvez aller consulter le site www.resultes.election.europa.ue. Vous pouvez rajouter France même, slash France. Mais si vous consultez tout simplement le site europa.ue, vous allez pouvoir aller, toutes les explications seront données.
Voilà, parce qu'il y a un double critère pour pouvoir constituer un parti européen. Il faut un minimum de représentativité, donc par rapport au nombre d'habitants, et un minimum de nombre de pays.
Oui.
Il y a un double critère, comme très souvent à l'Assemblée européenne. Ouais. C'est-à-dire que la majorité ne suffit pas, vous pouvez être majoritaire, mais en plus, il vous faut un certain nombre de pays.
De pays. 27 peuples européens, donc, élisent ces 720 eurodéputés. Ou eurodéputés ES, hein, parce qu'on a quand même plus d'un tiers de femmes qui sont dans le groupe des eurodéputés. Qui eux-mêmes vont élire à leur tour le président du Parlement européen. Toutes les listes qui obtiennent moins de 5% des suffrages sont éliminées. Voilà, pour pouvoir rester en... Les autres se partagent les sièges qui restent à pourvoir et 80 sièges pour représenter la France au Parlement européen. À la proportionnelle, hein, gauche, droite, extrême droite, extrême gauche, bon, pas vu, mais enfin bon, vous en avez eu. Sur les 38 listes, hein, vous pouvez aller voir.
On a eu des députés du NPA.
Du NPA.
Qui étaient
oui,
des députés européens du NPA.
Alors, vive la France, vive la démocratie. La désignation du président du Parlement se fait par une élection à la majorité absolue par les eurodéputés. Le groupe parlementaire qui compte le plus d'eurodéputés aura de grandes chances d'obtenir la présidence du Parlement. Et c'est ainsi que Roberta Metsola a eu ce poste et est actuellement la présidente du Parlement européen.
Et j'apprécie beaucoup parce que personne ne connaît son nom.
Non. Exactement.
À ne pas confondre, justement, il faut peut-être expliquer aux auditrices et auditeurs, avec la présidente de la Commission européenne, qui est Ursula von der Leyen, qui est la plus connue.
Et c'est pour ça que j'avais commencé par ça, en vous disant que Roberta Metsola, qui est maltaise, voilà, hein, donc est la présidente du Parlement européen.
Et qui n'est pas un faucon.
Voilà, et qui est bien la présidente du Parlement européen. Finalement, on peut dire que pas mal de femmes ont eu ces postes-là, figurez-vous. Et des postes clés au sein de l'Europe.
On en a eu une éminemment célèbre.
La première, Simone en 1979, Veil. Simone Veil.
Et voilà. D'ailleurs, elle veille plus puisqu'elle
est
plus là.
Et ça a été la première présidente du Parlement européen.
Absolument.
Voilà, élue au suffrage universel. Chaque parti européen doit sélectionner en amont un ou une candidate à la présidence de la Commission. Et depuis 2019, c'est aussi une femme qui est à la tête de la Commission européenne, une Allemande, comme tu l'as bien dit, Ursula von der Leyen.
Leyen.
Le siège de la Commission, alors, européenne, est situé à Bruxelles.
En face du Parlement européen. On a les deux, il y a le Parlement d'un côté de la rue et la Commission de l'autre côté de la rue.
En fait, ils prennent le train, mais après, s'ils sont sur deux autres ou plusieurs commissions ou suivant leur bureau, ils peuvent juste traverser cette fameuse rue.
Alors que le Parlement européen a deux lieux de siège. Il siège à la fois exactement à Bruxelles et à Strasbourg.
À Strasbourg. Il y en a qui font des voyages, mais enfin, bon, ils ont des tarifs. Bon, chaque nouveau président ou présidente est nommé par le Conseil européen et élu par le Parlement européen pour un mandat de 5 ans. Le ou la présidente de la Commission européenne répartit alors les portefeuilles. Culture, environnement, commerce, fiscalité, comme le ferait un Premier ministre composant son gouvernement. Vive la démocratie européenne! Après le Parlement, voici la Commission européenne, hein, donc le Parlement, la Commission européenne, l'organe exécutif de l'Union européenne. Elle met en œuvre les actes législatifs adoptés par le Parlement européen, donc nos eurodéputés, et le Conseil de l'Union européenne. Elle est également chargée de l'exécution du budget et de la gestion de certains programmes communautaires. Eh oui, la Commission européenne a quand même un sacré poids. Alors, parlons du Conseil européen. puisque l'on a déjà parlé du Parlement européen et de sa commission. Il regroupe les chefs d'État et de gouvernement des 27 États membres de l'Union européenne. Sa principale fonction est de donner les grandes orientations politiques de l'Union européenne. Mais il n'exerce pas de fonction législative. Il est présidé actuellement par un Belge, donc là aussi, il y a des changements cycliques, par un Belge, Charles Michel.
Charles Michel, absolument.
Voilà.
Je crois que, de toute façon, le président n'est là que pour 6 mois, si mes souvenirs sont
exacts. Il est renouvelable ce poste 2 fois dans l'année.
Voilà, donc tous les 6 mois, il a un mandat de 6 mois, c'est bien ça.
Voilà, alors juste, je voulais refaire une petite remarque, car il ne faut pas confondre le Conseil européen avec le Conseil de l'Europe.
Car le Conseil de l'Europe, il y a plus de pays dans l'Union européenne.
47. Alors, c'est une organisation internationale extérieure à l'Union européenne. Je le précise parce que bien souvent, on met tout pour l'Europe.
Faut dire que les noms, quand même, entre Conseil européen et Conseil de l'Europe, la confusion est facile.
Facile, très facile. Le Conseil de l'Europe défend, figurez-vous, quand même, les droits humains par le biais de conventions internationales. Il est le défenseur des droits de l'homme, en Europe pour le coup aussi. Hein. Il préconise la liberté d'expression et la liberté des médias, la liberté de réunion, l'égalité et la protection des minorités. Le Conseil de l'Europe aide les États membres à lutter contre la corruption et le terrorisme et à mener les réformes judiciaires nécessaires pour chaque pays et pour l'entente de chaque pays. Son groupe d'experts constitutionnels, connu sous le nom de Commission de Venise, eh bien voilà, la Cour européenne des droits de l'homme dépend du Conseil de l'Europe quand même. Alors, je voulais quand même faire cette précision, parce que c'est important et c'est compliqué l'Europe. Je peux vous dire que là, je vous résume de façon très claire, mais je vous assure qu'il faut bien lire entre les lignes. Hein. Résumons donc, on ne sait jamais des fois que vous auriez une interrogation écrite sur l'Europe, hein. Résumons, les institutions européennes qui gouvernent l'Union européenne sont essentiellement la Commission européenne, l'exécutif, le Conseil européen, représenté par les États membres, le Parlement européen représentant les citoyens, nos eurodéputés, et la Cour de justice, qu'il ne faut pas oublier, de l'Union européenne, garantissant l'application des droits de l'Union européenne. Mais attention, il y a aussi la Cour de justice de l'Union européenne et autres comités avec des experts pour analyser, pour critiquer, pour juger les grandes questions et décisions à prendre. Vive la démocratie ! Énorme machine décisionnelle, difficile à tout comprendre de cette bureaucratie européenne. La construction européenne est un processus complexe et évolutif qui remonte à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Son objectif initial était de promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité sur un continent aux contours géographiques pas trop clairs ou en cours de marche. Surtout après la chute du rideau de fer en 1989, son processus d'élargissement a vu l'adhésion de plusieurs pays d'Europe de l'Est et en même temps de pays méditerranéens. Depuis, il y a la guerre en Ukraine. Et à l'heure actuelle, 9 pays sont officiellement candidats pour intégrer à leur tour l'Union européenne. L'Albanie, on mettra plus au sud, la Bosnie-Herzégovine, la Géorgie, la Macédoine du Nord, la Moldavie, le Monténégro, la Serbie et l'Ukraine. Et les 2 prochains à venir sans doute dans l'Union européenne seront la Moldavie et l'Ukraine. Je crois que la Turquie s'en est exclue elle-même. Alors, la crise financière de 2008 a mis en lumière des déséquilibres économiques entre les pays membres, tandis que la crise migratoire a mis en évidence des divisions politiques au sein même de cette Union européenne. Nous sommes en droit, nous, citoyens français et européens, de nous poser une question cruciale au vu de ces prochaines élections européennes. Existe-t-il réellement une démocratie européenne ? Cette question de l'Europe constitue désormais une fracture dans la société française. Si pendant longtemps la France a joui d'une place prépondérante dans la construction européenne, elle voulait garantir une coopération entre les États-nations souverains. Elle a même incité à la création d'une monnaie unique, l'euro, en 1999. C'était l'Europe de la paix et de la coopération. Et pourtant, on parlait bien d'Europe économique, et ça dès le début, lorsqu'elle s'appelait CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, en 1951, pour favoriser la coopération économique et prévenir les conflits entre les nations européennes. Après la Seconde Guerre mondiale, ce fut la CEE, la Communauté économique européenne. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes devenus l'Union européenne. Et dans l'Union européenne, il y a plus que le sens du mot économie. Je repose la question, est-ce que cette Europe-là est bien démocratique ? Alors, y avait-il d'autres projets d'ailleurs derrière tout ça, depuis le début ? C'est-à-dire, même depuis le début peut-être de l'après-guerre, parce qu'il y a eu des partages aussi entre pays forts, entre pays, on va dire, vainqueurs, des partages qui aussi peuvent remettre en cause, non plus bah, les frontières européennes, mais des frontières internationales. Alors, je reviendrai peut-être dessus, mais là, ce n'est pas le propos. Les citoyens, donc, ont-ils l'opportunité de décider collectivement de l'avenir de l'Union européenne ? Par cet exercice démocratique du scrutin et de son action sur des projets majeurs, par tels que l'énergie, le climat, la lutte contre la pauvreté, l'exclusion sociale ou encore même la santé publique. Et là, on peut se poser la question aujourd'hui encore une fois de plus, parce que si on va voir les fameuses 38 listes, j'en reparlerai peut-être un petit peu, bah moi je m'étonne. Déjà le climat, la problématique du climat, on en parle très peu. La problématique agricole, qui est aussi liée au climat et qui est aussi liée à notre environnement et à notre santé, elle dérange, donc même le pacte vert qui a été voté est remis en cause. Donc moi je vous invite à aller voir sur le site europa.eu, d'aller voir un petit peu tout ce qui est proposé dans les 38 listes de la France. Hein. Et il y a vraiment un peu de tout et aussi du n'importe quoi. Pour moi, j'estime que c'est vraiment même presque inquiétant puisque c'est quand même tendancieux. Et pour certaines très nationalistes, on se dit souverainiste ou nationaliste, on ne fait pas ou peu la différence. Quelle différence déjà ? Je reviendrai dessus d'ailleurs la semaine prochaine. En attendant, parce que le sujet est quand même pas facile, eh bien je vais vous proposer un livre. Après l'État-nation, une nouvelle constellation politique, de Jürgen Habermas, sorti chez Fayard. Hein, Jürgen Habermas, pardon. Alors, c'est un recueil de 3 articles, écrit donc par le philosophe allemand du même nom, le père de l'éthique de la discussion ou du patriotisme constitutionnel. Voilà, 2 titres où il a été reconnu hein, de par ses propos. Donc, et qui est aussi un grand européen. Il livre ici, donc, dans ce court essai hein, sur 3 articles, qu'après 17 années de crise économique et institutionnelle dans l'Union, eh bien, le problème, c'est que ça n'a toujours pas pris de ride, contrairement à l'auteur, puisque je crois qu'il n'est pas loin des 90 ans. Donc, cet auteur parle de la mondialisation, des échanges, mais aussi de sa dimension multiculturelle des sociétés européennes, a contribué à réduire les marges de main-d'œuvre de l'État-nation érigée en principal cadre structurant des sociétés à la fin du XIXe siècle. Donc, c'est pas si compliqué de ce livre-là. En fait, c'est assez intéressant de pouvoir faire la différence sur l'État souverain et de tout ce que ça représente dans un État, sa culture, sa pensée, son instruction, voilà, et de décortiquer un petit peu ça. Et c'est après qu'il arrive à l'État-nation. Enfin, je pense que c'est intéressant à lire. Donc, plutôt que de prôner un retour aux frontières nationales, l'auteur propose de transférer au sein d'une fédération européenne cosmopolite les fonctions que le niveau national ne peut plus assurer convenablement. Alors, à lire, c'est vrai que ça porte à discussion, mais ce n'est pas pour moi utopique alors qu'ils le mettent comme un utopiste, mais c'est des questions qui devraient et qu'auraient dû peut-être être même soulevées avant qu'on continue à élargir l'Europe. Bon, c'est mon point de vue, je suis désolée, c'est mon point de vue. Pour le site, donc, vous l'avez, europa.eu. Voilà, eh bien je vais vous laisser parce que je ne serai pas plus longue. Je vais vous laisser avec une chanson de Saez, Mes européennes.
Mon européenne.
Ah, mon européenne.
Mon européenne.
Voilà.
Il y en a qui.
Voilà. Alors juste, je remets un petit plus sur Jürgen Habermas, ce qu'il proposait à travers plusieurs critiques et à travers sa façon de penser. Son but à lui, c'était de réinventer la démocratie.
Ah bah.
À la semaine prochaine.
Exactement.
Voilà.
Elle est gauloise au petit vin blanc, elle est contre-gouvernement, elle est profite des religions, elle est pop putain du pognon, elle est vent du nord ou d'ouest, elle est vent du sud ou de l'est, elle est sans abri à la rue, elle est toujours peine perdue. Elle est gitane, elle est profane, elle est con, la gauloise plane. Elle est toujours fumeuse de joint, elle dort dans les gares en chemin. Elle est solidaire au combat, elle est Varsovie, Messina. Elle est pas banquière pour un sou, elle est pas botte au garde à vous. Elle est sans abri, sans frontières, elle est contre-totalitaire. Elle est je t'emmerde avec ta thune, elle est vas-y resserre une brune. Elle est ma gueule de Picasso, elle est tous mes potes au pinceau. Kusturica, Sarajevo, elle est pas loin la Gestapo. Mon européenne, c'est pas la Bruxelles, mon européenne, c'est pas Genève. C'est pas la thune, tu marches ou crèves, tu sais moi, mon européenne. Elle a pas vraiment de frontières, son corps c'est la planète entière. N'en déplaise au peuple bourgeois, tu sais mon européenne à moi. Elle est que bon rat sur l'épaule, elle est tatouage de la tôle. Elle est accordéon sanglot, elle est accorde-moi un tango. Elle est destin des origines, elle est racine gréco-latine. Elle est contre l'union bancaire, elle est mes révolutionnaires. Elle est potamimi pinson, elle est roumanie sans pognon. Elle est guillotine pour les rois, elle est plutôt comme toi et moi. Elle est pas médiatique je crois, elle est pas politique bourgeois. Elle est paysanne au combat, elle est partisane quand elle boit. Elle est ouvrière licenciée, non c'est pas la fille du progrès. Elle est pantonéon métro, elle est plutôt Manu Crado. Elle est nordique nord-africaine, elle est un peu baltique aussi. Elle a des airs de statue grecque, elle a des airs des Italies. Qu'on dirait Paris à Venise, qu'on dirait Namur aux Marquises. C'est Gauguin qui peint la terre comme un pinceau, vous dit mon frère. Mon européenne, c'est pas Bruxelles, mon européenne, c'est pas Genève. C'est pas la thune, tu marches ou crèves, tu sais moi mon européenne. Elle est pas Merkel ou Hollande, c'est pas Laval, c'est propagande, des discours de lobbies propres.